Radio Okapi. Interface.
Le développement de la RDC exige des institutions fortes qui jouent réellement chacune son rôle constitutionnel afin d'une part de garantir la cohésion nationale et d'autre part d'assurer la bonne gestion de la Respublica. Et c'est dans ce cadre que le Sénat est appelé à jouer un rôle important pour le développement de la RDC, comme c'est le cas aux États-Unis, estime le sénateur Florentin Mokonda Bonzar. Cependant, certaines voix se sont déjà levées en RDC pour proposer la suppression du Sénat, alors que le bureau de la Chambre haute a lancé il y a quelques mois un plan de réforme de cette institution pour la rendre plus importante en RDC. En quoi consiste ce plan de réforme du Sénat? Que faire pour que le Sénat joue réellement son rôle constitutionnel? Interface reçoit dans ce numéro Bob Kabamba, professeur des sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique et spécialiste de la RDC. Avec lui, nous analysons le plan de réforme du Sénat et proposons des pistes pour aider cette institution à devenir plus utile à la RDC. À la coordination et présentation, je suis Michel Kifindangoy. Interface, c'est parti. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Interface de ce jour qui se penche sur l'importance du Sénat en RDC et sa réforme en cours initiée par son président Modeste Bahati Lukwebo. Tout de suite, Actu Hebdo.
Interface.
60 à 70% des recettes du budget national sont consommées par les institutions, alors que le secteur de développement des bases ne reste qu'avec moins de 30%, s'indigne Steve Mbikai, ancien ministre de la RDC et président du Parti travailliste. Comme solution pour minimiser les dépenses publiques, le président du Parti travailliste plaide pour la suppression de certaines institutions budgétivores et sans impact, parmi lesquelles le Sénat. On écoute Steve Mbikai.
La position du Parti travailliste du Front patriotique 2023 est claire à propos. Nous pensons que dans notre pays, le peuple croupit dans la misère, mais l'argent qui est produit par ce même peuple est plus destiné à supporter les institutions de la République, qui prennent environ 70% de recettes que nous générons. Alors, nous avons pensé que, comme nous sommes un pays en crise, il faudrait bien limiter les dépenses institutionnelles en supprimant certaines institutions du genre Conseil économique et social, à mon avis, même CESAC, CNSA, le Sénat. Parce que le Sénat fait un double emploi avec l'Assemblée nationale. Les lois sont celles qui sont déjà votées à l'Assemblée nationale et qui vont en seconde lecture au Sénat. Et en cas de divergence, c'est la position de l'Assemblée qui passe. Mais aussi, on connaît les pays qui ont supprimé le Sénat, mais qui ont continué à vivre. Donc, c'est pour dire que le Sénat est facultatif. À mon avis, c'est une dépense de prestige. Voilà pourquoi nous avons dit que il faut le supprimer et que cet argent soit affecté au social de la population, notamment à donner des bourses d'études à nos jeunes. Il y a bien des domaines qu'il faut investir. Mais payer des vieillards qui sont là à ne rien faire, à lire des lois venant de l'Assemblée nationale, nous pensons que c'est une dépense donc dont on peut se passer.
En réaction, le professeur Florentin Mokonda Bonza, ministre et sénateur honoraire, estime que comme sous d'autres cieux dans les États-Unis, le Sénat est d'une importance capitale pour la bonne marche d'une nation. Pour lui, le Sénat congolais a vocation à jouer un rôle très pertinent dans la sauvegarde de la cohésion nationale notamment. Professeur Florentin Mokonda Bonza.
Les constituants ont voulu qu'en République démocratique du Congo, que le Parlement ait deux chambres. Et normalement, la deuxième chambre, la chambre haute, la chambre de sages, elle devait normalement être composée de hommes et de femmes qui ont longtemps travaillé, qui ont une expérience de terrain dans les différents secteurs d'activité de la vie nationale, de manière à faire un contrepoids aux décisions qui seraient prises par la chambre basse, qui généralement est la chambre de jeunes, des intellectuels, des gens qui n'ont pas nécessairement acquis beaucoup d'expérience sur le terrain. Dans un pays comme les États-Unis ou dans d'autres, généralement, le Sénat est composé de personnalités de très grande facture, de très très grande facture. Donc je pense qu'on ne peut pas se priver d'un Sénat dans un grand pays comme le nôtre, où les décisions qui doivent être prises doivent être pesées dans tous les sens, de manière à ce que la fougue des jeunes soit par exemple contrebalancée par la sagesse de ceux qui ont atteint un certain âge et qui ont acquis une expérience dans leur vie. Je crois qu'on a besoin de ce Sénat, mais pas un Sénat qui est constitué de gens qui payent auprès de leurs électeurs leur siège.
Mais pourquoi le constituant a voulu que le Sénat soit parmi les institutions importantes de la République? Et quelles sont ses attributions constitutionnelles? Les points avec vous, Jean Gandou.
En République démocratique du Congo, le Sénat est l'une des chambres du Parlement. Son rôle est de voter les lois, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose de sa propre dotation. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Le sénateur peut être issu d'un parti politique ou d'un regroupement politique, tout comme il peut se présenter en indépendant. Le sénateur est élu au second degré par l'Assemblée provinciale. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans et il est rééligible. Et pour être candidat sénateur, il faut remplir un certain nombre de conditions dont être congolais, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Les deux chambres, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, peuvent constituer une ou plusieurs commissions mixtes par pour concilier les points de vue lorsqu'elles sont en désaccord au sujet d'une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en termes identiques. Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale statue définitivement. L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder 3 mois. L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu'à la majorité absolue de membres qui le composent. Notons que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de révision constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle. Le Sénat ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et que pense la population du rôle que devrait jouer le Sénat en RDC? Devrait-elle être supprimée ou renforcée de pouvoirs de contrôle et de législation? Les habitants de Kinshasa, Kalemi, Matadi et Mbandaka s'expriment.
Nos attentes par rapport au travail du Sénat devraient correspondre à la mission pour laquelle cette institution a été mise en place. Mais actuellement, on a comme l'impression que ce travail n'est pas correctement fait, tout a été politisé. Pendant que la mission du Sénat, il est clair, et le travail qu'il devrait faire est aussi clairement défini dans la Constitution et les autres textes de loi de la République, notamment les règlements d'ordre intérieur du Sénat.
Pour moi, d'abord, c'est une chambre des sages, comme nous voyons ailleurs aux États-Unis et consorts. C'est bien elle, cette chambre, qui tranche en dernier ressort les décisions prises par l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est ce qui se passe au Sénat, surtout chez nous en RDC. Je ne vois rien en ce qui concerne le Sénat, parce que aucune décision qui ne casse pas les décisions prises unilatéralement par l'Assemblée nationale, elle est là juste pour approuver. Nous n'attendons rien du Sénat. Nous n'attendons rien du Sénat parce qu'il n'y a aucun travail qu'ils font.
Je n'attends rien du Sénat. Je pense que dans notre pays, le Sénat est une institution de trop. Notre Parlement devait être constitué seulement de l'Assemblée nationale et une Assemblée nationale de même taille que ce que nous avons comme Sénat actuel. Notre Sénat est aussi inutile que nos assemblées provinciales. Voilà mon point de vue.
Moi, je crois que le Sénat est important pour un État comme le nôtre. Au lieu que l'on parle de la suppression du Sénat, il faudrait que l'on parle du renforcement du pouvoir de contrôle de celui-ci. Pour y arriver, il faudrait que l'on puisse modifier la Constitution. Le Sénat doit devenir cette chambre-là qui statue en dernier ressort en cas de conflit entre l'Assemblée nationale et lui. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir sénateur dans un État sérieux comme le nôtre. il faudrait qu'il y ait des critères qui sont pris tenant compte de l'expérience dans la gestion de la chose publique. Notamment, avoir été élu député 2 fois, que l'on puisse tenir compte des anciens gouverneurs de province, avoir été ministre gouvernement central ou des anciens professeurs, parce que c'est la chambre des sages où est appelé à siéger les anciens présidents de la République. Et donc, il faudrait qu'il y ait une dose de connaissances et de compétences. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes appelé à candidater pour devenir sénateur. Malheureusement, c'est le mauvais constat. Voilà pourquoi certaines opinions pensent qu'il faut carrément supprimer le Sénat. Mais moi, je pense à mon humble avis qu'il faudrait que le Sénat puisse fonctionner et qu'il devienne cette chambre qui corrige les erreurs qui sont commises au niveau de l'Assemblée nationale. À ce moment, le Sénat va laisser son travail d'accompagner l'Assemblée nationale, mais va devenir une chambre véritablement des sages.
Mangercracy est une composition de Tiken Jaffa Koli. Nous recevons à présent Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Professeur Bob Kabamba, bonjour.
Bonjour.
Certaines voix se sont levées pour demander la suppression du Sénat. Pensez-vous qu'il soit toujours opportun de maintenir cette institution dont le travail n'est pas perceptible dans le quotidien des Congolais?
C'est une question fondamentale, monsieur le journaliste. Quand on parle justement de représentation parlementaire, il y a 2 formes de représentation parlementaire. Dans un premier temps, il y a la représentation des peuples. La représentation des peuples, c'est-à-dire de la population, du peuple congolais, est assurée au niveau donc de l'Assemblée nationale. Et il y a une deuxième forme de représentation qui est la représentation des nations qui constituent un pays. Ici, c'est-à-dire la représentation des différentes ethnies et qui sont sur le territoire congolais. Et c'est cette représentation que l'on trouve au niveau du Sénat. Et c'est pourquoi les sénateurs sont élus par les assemblées provinciales, puisque les sénateurs sont censés représenter les diversités au niveau de la province et qu'ils doivent cette diversité doit se retrouver au niveau du Sénat. C'est pourquoi c'est un organe de cohésion nationale, mais aussi un organe où justement on veille à ce que il y ait une dynamique communautaire qui soit pas source de conflits. L'abolir, je ne pense pas que ce soit pertinent, pour la bonne et simple raison que on a prévu effectivement qu'il puisse y avoir deux lectures, une lecture à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat par rapport aux différents textes qui sont votés. Il peut arriver effectivement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, qu'on vote un texte, mais ce texte n'a pas toutes les garanties ou bien présente quelques défauts. Ces défauts peuvent être justement corrigés au niveau du Sénat. Et donc le Sénat a quand même un rôle très important qui est celui de représenter les populations, représenter le peuple, les ethnies, les provinces, et veiller surtout à la cohésion et surtout service de deuxième lecture au cas où il y a des textes qui sont votés au niveau de l'Assemblée et qui mériteraient d'être corrigés. Le Sénat est là pour ça. Et c'est aussi pour ça que au niveau de la Constitution, on avait bien marqué qu'il est toujours en cas de vacances au niveau de la présidence, c'est le président du Sénat qui pourrait assumer cette charge. Pourquoi le président du Sénat? Parce qu'il est considéré comme au-dessus des dynamiques communautaires et en ayant plus ou moins une légitimité qui peut être une légitimité nationale à travers les différents sénateurs qui constituent le Sénat.
Rêvons grand, c'est un hymne à la grandeur du Congo, composé par une chorale catholique de Kinshasa. Parlons à présent du projet Le Sénat se réforme, lancé par son président Modeste Bahati Lukwebo.
Interface.
Étant l'émanation des provinces, le Sénat se lance dans une réforme. Le but étant pour le Sénat, d'après le président de cette chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, d'assumer pleinement ses prérogatives constitutionnelles. En effet, un projet de réforme a été présenté il y a quelques mois par le bureau du Sénat. Dénommé le Sénat se réforme, les différentes propositions s'y trouvant amèneront le Sénat à s'impliquer activement et pleinement dans le développement des provinces afin de concourir à la paix, à la sécurité et au développement. Les détails dans ce dossier que nous propose Jacques-Yves Molima.
En plus d'intégrer la conférence des gouverneurs, première réforme, afin d'y jouer son rôle de chambre des sages initiatives lors de ces rencontres, ce projet attend instaurer un congrès Sénat-Province. En effet, le Sénat devrait y égard à sa mission constitutionnelle jouer un rôle déterminant dans les provinces. Ce congrès Sénat-Province, cette seconde réforme, sera un cadre permanent de concertation, de dialogue et d'interaction entre le Sénat, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Tous les problèmes relatifs à la gouvernance territoriale et au développement local y seront présentés, partagés et discutés. L'objectif étant d'assurer une vision et une compréhension commune des 10 problèmes, mais aussi des lacunes et des réponses à apporter et d'éviter la duplication des efforts. Le président du Sénat, Modeste Baati-Lukwebo, se veut plus explicite.
Au travers de l'article 104 de la Constitution, chaque sénateur représente sa province. Nous avons décidé de prendre l'avantage à bras le corps cette prérogative en faisant désormais fonctionner le Sénat comme laboratoire d'idées en vue de la concrétisation de la décentralisation.
Par ailleurs, au niveau interne, le Sénat voudrait d'une part déployer une nouvelle stratégie de communication afin d'optimiser la visibilité et du Sénat et du travail des sénateurs. D'autre part, se mettre au diapason de l'évolution numérique en modernisant leur travail. Par exemple, dans l'immédiat, le projet prévoit la mise en place du système de vote et de demande de parole par boîtier électronique. Et dans l'avenir, procéder à la mutation du système de vote et des prises de parole par visioconférence. Le Sénat voudrait également, toujours en interne, mettre en place une politique d'œuvre sociale et de mécénat scientifique du Sénat. Par exemple, organiser à la fin de chaque trimestre l'opération œuvre du Sénat pour une école, œuvre du Sénat pour un hôpital et aussi la mise en place d'un fonds du Sénat pour la promotion de la recherche scientifique. Une autre réforme en vue est celle liée à la diplomatie parlementaire du Sénat. Cette Chambre voudrait, d'après cette proposition, entre autres accompagner la diplomatie des provinces, et cela dans le cadre de la coopération internationale décentralisée. Aussi, s'activer dans les actions diplomatiques parlementaires pour trouver des solutions réalistes à des problèmes complexes, notamment dans le domaine des bons offices pour l'avènement de la paix et l'échange de bonnes pratiques pour asseoir la sécurité collective, mais également en matière de coopération économique, culturelle et climatique. Ce projet de réforme est soutenu et accompagné par le programme des Nations Unies pour le développement. Signalons enfin qu'au dire de Modeste Baati-Lukwebo, président du Sénat, ces réformes n'impliquent en aucune manière la révision de la Constitution. Elles permettront cependant à la nation de bien percevoir le travail et l'importance du Sénat.
Pour parler de cette réforme, revenons à notre invité Bob Kabamba, professeur des sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Alors professeur, le Sénat a initié un programme de sa réforme. En quoi consiste ce programme?
Le Sénat, donc à travers son président, l'honorable Baati-Lukwebo, a initié donc un projet de réforme donc du Sénat. Et ce projet tourne autour de sept points qui sont donc intégrer la conférence des gouverneurs, instaurer le congrès Sénat-Province, tenir la quinzaine des provinces, déployer une nouvelle stratégie de communication, relever les défis numériques au Sénat, redynamiser la diplomatie parlementaire du Sénat, mettre en place les œuvres sociales et le mécénat scientifique donc du Sénat. Et donc c'est tous ces programmes contenus avec ces sept piliers qui vont constituer donc l'essentiel de la transformation du Sénat vers un Sénat qui se veut plus moderne.
Parmi les sept points de réforme, le Sénat veut intégrer la conférence des gouverneurs. Pensez-vous que cette intégration non prévue par la Constitution est opportune?
Les textes instituant la conférence des gouverneurs sont très clairs. Le Sénat ne fait pas partie justement de cette structure, la conférence des gouverneurs de province. Néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Sénat étant l'émanation des provinces, et qu'il était important pour le Sénat de pouvoir continuer à parler toujours au nom des provinces et à pouvoir être leur courroie de transmission, surtout sur les questions qui concernent les aspects législatifs. Alors l'opportunité pour le Sénat de pouvoir intégrer, pas vraiment intégrer du fait que ça conduirait à la modification des textes, notamment la modification de la Constitution, mais c'est de participer en tant qu'invité. Et donc le Sénat, en tant qu'invité de la conférence de gouverneurs, pourra aussi apporter la voix du Sénat dans le débat avec les différents gouverneurs lors de cette conférence.
En quoi l'instauration du Congrès Sénat-Province va-t-elle contribuer au développement des provinces si celles-ci ne reçoivent pas normalement leur rétrocession du gouvernement central?
L'instauration d'un Congrès Sénat-Province est une avancée majeure dans la dynamique que la constitution de la RDC avait essayé d'instituer. C'est-à-dire que l'on a un pouvoir au niveau horizontal et aussi on a un pouvoir au niveau vertical. Et alors au niveau vertical, il est important qu'il puisse y avoir des communications continues entre le niveau national et le niveau provincial. En instaurant ce congrès, c'est justement institutionnaliser de rapports de collaboration entre ces deux niveaux du pouvoir. Ainsi donc, les sénateurs et les élus provinciaux pourraient se rencontrer et instituer un lien fonctionnel, formel, entre ces deux niveaux de pouvoir.
Le Sénat prévoit aussi de tenir la quinzaine des provinces au Sénat. Comment cela pouvait-il renforcer la défense de la décentralisation et l'amélioration de la gouvernance territoriale et du développement local?
En fait, cette quinzaine des provinces au Sénat, il s'agit vraiment de pouvoir donner aux provinces la possibilité de venir présenter leur potentialité, de venir, entre guillemets, se vendre au niveau national. Et puisque le Sénat est l'émanation des provinces, il est important que les provinces viennent aussi au Sénat pour se faire valoir. Et donc le Sénat deviendra à ce moment-là la vitrine donc de la province. Et donc elle sera un espace pour présenter la province, valoriser ses potentialités. C'est aussi une possibilité de pouvoir créer, encore renforcer les dynamiques qui existent déjà entre les sénateurs et les provinces. Et ainsi espérer, par exemple, attirer des investisseurs qui sont des éléments essentiels pour permettre le développement d'une province. Par ailleurs aussi, lorsque l'on présente sa province, on ne la présente pas comme province, on la présente aussi dans ses différentes facettes, dans ses différentes figures. Et quand on dit différentes figures, et là on voit nécessairement les questions liées à la décentralisation, liées au territoire, liées aux villes, liées aux communes, qui peuvent aussi être présentées au niveau.
Visiblement, le travail du Sénat n'est pas perceptible dans l'opinion publique. Quelle stratégie de communication le Sénat devrait-il mettre en place pour optimiser la visibilité du travail des sénateurs et mieux se faire connaître?
Aucune institution ne peut aujourd'hui, dans son intérêt bien compris, de se passer d'un effort de communication et de visibilité. Et donc c'est aussi le Sénat le moyen de pouvoir se doter d'outils pour informer directement le peuple congolais et surtout aussi bien au niveau national qu'au niveau international sa façon de fonctionner et surtout sa contribution dans la consolidation de la démocratie au Congo.
Le Sénat congolais envisage redynamiser sa diplomatie parlementaire. En quoi cette réforme va-t-elle aider la RDC à faire entendre sa voix sur le plan international, au-delà de ce que fait déjà le ministère des Affaires étrangères?
La diplomatie parlementaire doit faire partie intégrante de l'arsenal que déploie tout État pour développer donc ses relations internationales. Ce n'est pas uniquement un gouvernement qui doit porter la voix d'un pays sur le plan international. Il y a aussi les assemblées, le Parlement, qui est aussi un outil important qui doit porter haut les couleurs d'un État au niveau international. C'est l'occasion, par exemple, pour le Sénat de pouvoir développer des échanges avec l'étranger, tisser des dynamiques politiques, entretenir une image positive et établir un climat de coopération qui peut faciliter aussi les partenariats.
La toute dernière question, professeur. Le bureau du Sénat compte mettre en place les œuvres sociales et le mécénat scientifique. Quelle perception avez-vous de cette initiative? Ne la trouvez-vous pas budgétivore pour rien?
Il s'agit ici pour le Sénat et les sénateurs de se donner un devoir et une obligation des gestes concrets de solidarité à l'endroit des populations. Il arrive souvent qu'il y ait des catastrophes qui frappent la population civile. Des fois, les outils classiques d'aide ne suffisent pas. Et c'est une façon aussi pour le Sénat de pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de contribuer lorsque ce genre d'événements arrivent. Et pour le mécénat, c'est valoriser, au fait, les travaux des scientifiques et valoriser les œuvres, le travail qui peuvent être fait par des Congolais et qui ont besoin d'être connus au niveau national et au niveau international. Donc, globalement, on peut dire que ce projet de réforme vise à transformer le Sénat actuel en Sénat moderne, répondant aux critères internationaux.
Professeur Bob Kabamba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi prend fin Interface sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Jacques-Yves Moulima, Jean Gandou et Philbert Balolagué ont participé à sa réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et Martin Seboujangoué. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Vous pouvez écouter la rediffusion de ces numéros mercredi à 15h30 et 22h. Merci de rester fidèle à la fréquence de la paix. Au revoir.